le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public, et quel public toujours fidèle, ici à l'Opéra National de Lorraine à Nancy pour Un masque et la plume, consacré à la rentrée littéraire avec bien sûr les bergamotes de la critique. J'ai nommé Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, Jean-Claude Raspienjaz de La Croix, Éric Neuhoff du Figaro, qui a à la fois la carte littéraire et la carte cinéma, et avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de la Revue Charles. Et qu'on ne me fasse pas de faux procès si la Tribune est ce soir exceptionnellement masculine, c'est seulement que nos amis Patricia Martin et Nelly Caprielian sont retenus ailleurs et qu'Olivia de Lamberterie, vous le savez, publie avec toutes nos sympathies et s'est mise quelque temps en congé du masque et la plume. Nancy donc, où le livre Sur la place qui réunit 200 auteurs, dont beaucoup de victimes du masque et la plume, et accueille 150 000 visiteurs, fête ses 40 ans. Une édition présidée cette année par les 10 académiciens Goncourt au complet, au programme notamment des rencontres avec chaque académicien, même Éric-Emmanuel Schmitt, une lecture de Jean d'Ormesson par Alice Taglioni, l'inauguration à Nancy d'une rue Edmond Charleroux, des causeries sur l'intelligence artificielle ou l'Amérique de Trump, la remise du prix Goncourt de la biographie à Denis de Montpion pour son livre sur Salinger, un débat sur la guerre intime avec Émilie Frèche, Venez armée, et surtout un grand entretien accordé par Salman Rushdie sur cette même scène de l'Opéra de Lorraine à l'occasion de l'apparition de son nouveau roman La Maison Golden chez Actes Sud. Puisque l'Académie Goncourt vient d'annoncer, c'était avant-hier, vendredi, sa sélection 2018, vous n'échapperez pas les uns et les autres à ma question rituelle. Qui aura, selon vous, le prix Goncourt et quel roman voudriez-vous voir couronné cette année dans cette sélection? Il y a même 15 titres, parmi lesquels ceux de d'Éric Fotorino, de Toby Nathan, de Daniel Picouli, de Clara Dupont-Mono ou encore de Gilles Martin-Chauffier. Allez, on commence par Arnaud, le livre qui aura le Goncourt, celui que tu voudrais voir couronné.
D'abord, le scandale, à mon avis, le scandale absolu de cette liste, c'est l'absence du plus grand écrivain français qui sort un livre admirable en cette rentrée, c'est Pierre Guillotat.
Idiotie,
chez Grasset. Pierre Guillotat est souvent considéré comme un écrivain illisible. Il publie là son livre absolument lisible sur son adolescence, ses fugues à Paris. C'est merveilleux, c'est admirable, c'est une très grande prose française. Et de le voir absent de cette sélection du Goncourt est tout simplement scandaleux, inadmissible. Je n'ai lu qu'un seul livre de cette liste, et c'est un choc pour moi. C'est le premier roman d'Inès Bayard. J'en parlerai tout à l'heure, puisque on parlera de premier roman en fin d'émission. Donc je ne vais pas en dire trop, mais ce livre est absolument remarquable. C'est le choc un peu qu'on a pu avoir avec Chanson douce de Leïla Slimani
il y a deux ans. Qui a eu le Goncourt.
Et donc j'espère et je pense que Inès Bayard peut avoir le Goncourt avec Le Malheur du Bas, publié chez Albin Michel.
Éric, même question.
Il faudrait donner le Goncourt à Philippe Besson, puisqu'il a été nommé consul à Los Angeles.
Mais c'est pas encore fait.
Comme Romain Gary, donc qu'il ait au moins le Goncourt une fois pour continuer sur la lancée de Gary. Sinon, à mon avis, dans la liste la vraie, ce sera Fotorino.
Tu penses que ce sera Éric Fotorino pour 17 ans chez Gallimard?
Et pour diverses raisons.
Mais tu n'en dis pas plus?
Mais je ne l'ai pas lu.
Donc c'est effectivement bon signe.
C'est plus sûr.
Jean-Claude.
Celui qui l'aura, moi je pense que c'est Guy Bollet.
Alors Guy Bollet, c'est Quand Dieu boxait en amateur chez Grasset.
Voilà, il aurait dû l'avoir déjà pour le précédent. C'est un écrivain qui a fait 1000 travaux, 1000 boulots, qui arrive de plein d'univers, et dont le premier livre était à 62 ans et qui a été une révélation. Donc son deuxième livre, j'espère, je pense qu'il aura le prix Goncourt. Et celui que j'aurais aimé qu'il ait, c'est évidemment Philippe Lanson.
Pour Le Lambeau chez Gallimard, qui est le livre qui va bien au-delà du livre de l'année et qui était effectivement tout à fait absent de cette liste. Maître Crépu.
Alors, il y a un livre de la liste que j'aime beaucoup, qui est le livre de Paul Gréveillac, qui s'appelle Maîtres et esclaves, qui est une fresque très ambitieuse de la vie sous la Chine.
Qui est chez Gallimard.
Chez Gallimard, sous la Chine populaire. L'itinéraire d'un artiste, c'est tout à fait ambitieux et impressionnant. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de constater l'absence anormale aussi de Lanson dans cette liste pour le Goncourt. Le Lambeau qui me paraît, depuis sa parution, être vraiment un grand, grand, grand livre, même indépendamment des raisons qui font de ce livre qu'il attire l'attention, naturellement, on pense à Charlie, mais c'est tout à fait extraordinaire.
Oui, Jean-Claude.
Non, c'est vrai qu'il faut s'étonner, Vindor. Il y a une vraie incompréhension de ne pas voir ce livre-là, parce que littérairement, c'est un livre tellement prodigieux, tellement stupéfiant, moi, je ne comprends absolument pas comment les académiciens Goncourt ne l'ont pas retenu.
Allez, on commence avec Un tournant de la vie, le nouveau et bref roman de Christine Angot chez Flammarion, que je vais essayer de résumer de manière tout à fait impartiale. La narratrice qui écrit, ou plutôt qui peine à écrire, et qui ressemble beaucoup à l'auteur, vit avec un musicien et ingénieur du son qui est antillais, qui s'appelle Alex. Et un jour dans la rue, elle aperçoit Vincent, qu'elle a follement aimé, et qui lui ressemble beaucoup à Doc Gineco, du moins celui du marché des amants. En l'apercevant presque 10 ans après leur séparation, elle a, je cite, « le cœur battant » et, je cite, « les jambes coupées ». Bientôt, son cœur, je cite, « va battre la chamade ». Comme dans Jules et Jim, vers quoi lorgne Christine Angot, la narratrice balance donc entre le désir et la fidélité son ex et Alex, entre, je cite toujours, « ces deux mecs » qui ont en plus la fâcheuse idée de travailler ensemble, jusqu'à cet aveu, d'ailleurs assez douloureux, page 147, de point ouvrir les guillemets. « J'en peux plus, Alex, j'ai pas une phrase qui tient debout. » Fermez les guillemets. C'est un roman essentiellement dialogué. Vous en pensez quoi, Eric ?
Ah, elle fait des progrès. C'est encore pire que d'habitude. Et là, tu as raison, les dialogues sont totalement indigent, mais c'est même pas un carnet de blanchisseuse, ni une liste de courses. C'est d'une telle faiblesse que par moment, elle est obligée, pour marquer un silence, de mettre un tiret et des points de suspension. C'est quand même le degré zéro.
Il y a beaucoup de points d'exclamation,
oui,
suivis
de
points d'interrogation.
Et surtout, physiquement, ça va très mal. Mon cœur se serrait, j'avais les jambes coupées, le cœur qui battait. Puis de temps en temps, ça va un peu mieux. Dans ma poitrine, je sentais mon cœur qui bondissait. Alors, il y a une question qui se pose, c'est y a-t-il un cardiologue dans la salle ? Parce que il lui faut un pontage, peut-être même un triple. Surtout que la gorge ne va pas beaucoup mieux. J'avais la gorge nouée. C'est terrible. Ma gorge s'étranglait. Je ne sais pas comment une gorge peut s'étrangler déjà physiquement. Il faut que la gorge soit très souple. J'avais les jambes coupées, la gorge serrée, les deux en même temps. Alors là, il ne faut pas seulement un cardiologue, mais aussi un otorhino pour elle. Et ça prouve bien tout ça que les insomniaques, ce livre devrait leur être remboursé par la sécurité sociale. C'est hallucinant. Et il y a un côté gnangnan. C'est dans le lit bien chaud, tout me paraissait merveilleux. Le personnage s'appelle Alex et elle le surnomme Alexinou, Minou. Et là, je pleure. Et elle ose, à un moment donné, dire qu'il regarde Jules et Jim de Truffaut à la télévision. Au cas où on n'aurait pas compris.
Il ne veut pas regarder Alex.
Ben, il a raison. Il veut être un peu tout seul. Non, mais parce qu'on nous bassine depuis des années en nous faisant croire que Christine Angot est l'héritière de Marguerite Duras. Mais ça n'est pas du tout ça. C'est la nouvelle Madeleine Chapsal. C'est un roman à l'eau de rose totalement faiblard.
Chapsal, c'était beaucoup mieux.
Chapsal, c'était beaucoup mieux, peut-être. Mais non, c'est un truc terrible. Et je crois que tous les gens qui ont encensé Christine Angot depuis des années, avec ce livre, maintenant, devraient être couverts de goudron et de plumes, comme dans les albums de Lucky Luke.
Arnaud.
Le comeback de Doc Gineco, quand même.
Vu comme ça.
Ah oui, bah oui, vu comme ça, c'est quand même un des personnages que je préfère dans l'œuvre de Christine Angot, un des personnages du marché des amants. Le comeback de Doc Gineco, qui d'ailleurs fait véritablement son comeback
avec un concert. Il a même les
oui,
épaulettes
mais
dorées.
Là, il revient à la télévision. C'est le comeback. Il avait un peu disparu. L'immense talent de Doc Gineco. Excusez-moi, pour moi, Doc Gineco, c'est important.
Alors, il y a cardiologue, ORL et gynéco dans ce livre.
Oui, il y a gynéco, ouais. Mais t'imagines le gars qui a choisi de s'appeler Doc Gynéco quand même. Hein. Il faut
un peu
être teubé, comme on dit. Vraiment, c'est un immense personnage. Et dans le livre, il est absolument parfaitement rendu. On se moque d'elle en tant qu'écrivain, mais sa capacité à rendre, et même un week-end à Trouville, la manière dont elle décrit ça...
C'est Deauville, plutôt, là, dans le livre. C'est plutôt un grand hôtel de Deauville, à mon avis.
Ah,
ah oui.
Moi, j'aurais plutôt pensé Trouville. Enfin bon, pas
je connais les lieux.
Voilà, mais c'est très bien décrit, quand même. Hein.
Oui.
On ne peut pas... Mais qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? À part
c'est le contraire de ça.
Quelqu'un qui décrit les choses.
C'est exactement le contraire
ah
de
non,
ça.
Non, je ne suis pas d'accord. Quoi. Je veux dire, il y a une capacité à rendre le réel. Et alors, c'est une maître ou maîtresse, si vous préférez, de l'autofiction. Ça fait 20 ans qu'elle en fait. Ça fait 20 ans qu'elle est décriée. Là, c'est vrai, elle donne les battes pour se faire verge ou le contraire. C'est clair. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose là. Elle cherche les coups.
Et elle, ah ben là, on a trouvé un.
Elle est partout dans la presse, ces ricanements sur ricanements.
Non. Alors là, je t'arrête. 4 pages dans Libé la semaine dernière.
Pages d'interview, mais.
Non.
Il y a quelque chose que personne ne veut comprendre de la perversité du travail de Christine Angot, y compris d'ailleurs par rapport à l'idée qu'on se fait tous de la littérature. Cette espèce d'idée de... Voilà. Elle va contre cette idée de manière très forte et très perverse depuis 20 ans. Et c'est impressionnant. Il y a une phrase qui raconte tout de son projet, finalement. Quelle est la différence entre l'autobiographie ? L'autobiographie est par définition impudique. Mais l'autofiction, c'est pervers. Il y a un moment, la narratrice, puisqu'il s'agit bien de...
Non, on va pas passer toute la soirée non plus avec ce livre.
Hein. Je voudrais juste terminer là-dessus. Elle dit, à un moment, jusqu'à quel point on peut blesser les gens. Je crois que c'est exactement ce que pose comme question au niveau de l'autofiction Christine Angot. C'est écrire, c'est forcément blesser des gens, jusqu'à quel point.
Encore faut-il écrire, vraiment, Arnaud. C'est ça,
mais,
le problème.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, écrire, vraiment?
Ça veut dire le contraire de ça.
Michel.
Non. Mais non, mais...
20 ans qu'elle fait
ça. Moi, je suis d'autant plus à l'aise pour parler de Christine Angot que j'ai toujours plutôt apprécié cette espèce de radicalité qu'elle avait de jouer d'un violon à une corde mal accordée et qui faisait sa voix, sa singularité.
Ah oui, c'est punk, ouais.
C'était...
Et là, c'est encore plus là.
Et là, on sort de... Ce qui est terrible dans ce livre, ce qui est accablant, c'est qu'on sort de la littérature. On est dans le rien, Arnaud. On est dans le rien. On est dans un mélange de vieilles séries de TF1 et de sous Duras, mélangés. Mais c'est accablant. Et on se dit, mais connaissant justement le parcours de Angot, effectivement, le fait qu'elle a un point de vue sur la littérature, je suis simplement sidéré de cet effondrement. C'est un effondrement littéraire. C'est lamentable.
Jean-Claude.
Alors moi, je dois vous avouer que j'ai ri à toutes les pages. Mais à toutes les pages.
Et je
tiens à préciser tout de suite que c'est absolument pas l'intention de l'auteur. Là, je vous le dis tout de suite. C'est clair, mais vraiment pas. C'est hilarant de bêtises. Mais vraiment, je dirais, il y avait Flaubert qui expliquait que la bêtise est un truc qui vous laisse la bouche ouverte, hein, vous êtes bouche bée, quoi. Eh bien là, c'est ça. Vous êtes face à un roman d'une bêtise, mais abyssale, qui se donne des grands airs. C'est le degré zéro du style, enfin on l'a dit, pauvreté de vocabulaire, dialogue pitoyable, niaiseux, répétitif, inconsistant, ce que vous avez dit, la maigreur de tout ça. C'est une rédaction de quatrième pour...
C'est dégueulasse pour les élèves de quatrième.
Oui, oui. C'est une rédaction de quatrième qui a été demandée pour le magazine Nous Deux, avec l'indulgence des examinateurs. Je vous donne un exemple. On est au Salon du Livre. Vous irez voir.
Nancy, je le rappelle.
Ne l'achetez pas, mais vous pouvez le feuilleter. Page 85, en 14 lignes, il y a 9 fois le verbe être. Alors c'est vrai que c'est...
Il n'y a que le verbe être et le verbe avoir. Oui. Mais pourquoi ? Parce que les histoires d'amour, car c'est une histoire d'amour, ça ne parle que d'être et avoir.
Arnaud, on peut aller plus loin que toi dans cette défense. Le verbe être, d'une certaine façon, possède une sorte d'infini qui ne peut qu'inspirer les écrivains. Si on est dans ton délire, si on est dans ton délire, on peut aller jusque là. Ce livre est profondément grotesque, mais ça pose une vraie question. Qu'est-ce qui nous arrive à tous pour considérer depuis 20 ans que Madame Angot est un écrivain?
On est dans
une imposture totale. Et ce livre en apporte enfin véritablement la preuve, dans toutes les pages. Il n'y a pas une page où Madame Angot, d'une certaine façon, arrive à se légitimer comme écrivain. Ce qui pose comme question, c'est que dans 50 ans, s'il y a
et
des
ça
historiens...
ça veut dire quoi,
dans
se 50 légitimer
ans,
si a, comme écrivain
dans 50
ça n'a aucun
c'est
sens. Elle écrit des livres depuis 20 ans, elle les traduit dans tous les pays. Son agent américain est le plus grand des agents américains.
Sauf en français.
De quoi vous parlez? C'est quoi légitimer, quoi?
Alors, ce
mais
qui
non,
est fascinant...
ça veut dire simplement qu'il y a une œuvre en cours qui trouve ses formes,
alors,
et là, il n'y a pas de
alors,
forme, il n'y a rien.
Alors, les amis...
La manière dont nous en parlons prouve même qu'il y a une forme.
Bon, alors,
elle
mais...
vous déplaît. Elle vous semble informe, mais c'est une forme.
Eh bien, c'est intéressant de savoir que le vide a enfin trouvé sa forme. Voilà, c'est enfin, voilà. Alors là, c'est quand même une vraie découverte. Je dis simplement que dans 50 ans, si des historiens s'intéressent encore à la littérature, je pense qu'ils auront du pain sur la planche en se demandant comment est-ce qu'on a pu porter autant au nu Madame Angot, et quel a été le ressort de notre aveuglement collectif, et qu'est-ce qui a pu produire chez un critique aussi avisé que Arnaud Vivian un tel délire pour défendre un livre aussi, mais épouvantablement bête.
Voilà. Eh bien, c'est un tournant de la vie, c'est tout ce qui reste de...
Un tournant dans mon amitié avec Rasmiajas aussi.
du roman de Christine Angot chez Flammarion, peut-être des réactions ici à Nancy, à l'Opéra de Lorraine sur ce livre. Non, je vois
l'exergue
que le public est tétanisé.
Bon,
allez, on passe à Asymétrieux, traduit par Hélène Cohen chez Gallimard, le premier roman qui fait sensation de l'américaine Lisa Hallyday. Elle romance en effet sa rencontre amoureuse à New York dans une maison d'édition avec un grand écrivain de 45 ans, ou bah oui, presque 45 ans, son aîné, qui pourrait être son grand-père, un certain Ezra Blazer, qui n'est autre, puisque Lisa Hallyday ne s'en cache pas, que Philip Ross, disparu, vous le savez, le 22 mai dernier, à 85 ans. Eh bien, dans le livre, il a la peau fraîche et ridée, ses lèvres sont toutes douces. Il appelle Alice, le double de Lisa Hallyday, ma sirène. Il lui offre une montre, il lui offre Allure de Chanel, des conseils de lecture et, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, il jouit comme un robinet. Cette relation charnelle et intellectuelle constitue la première partie du roman qui s'appelle Folie. La suite, intitulée Furie, se déroule en Angleterre. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Pendant qu'Alice et Ezra jouent au Scrabble et à autre chose, ou regardent des matchs de baseball à New York, eh bien, un certain Amar Jaafari, qui est économiste, tente de rejoindre sa famille en Irak et il est retenu et interrogé à l'aéroport de Londres, tout l'art de Lisa Hallyday consistant à enchâsser ces deux récits jusqu'à l'interview d'Ezra qui clôt le roman et qui l'unifie. D'ailleurs, on voit dans ce livre que, ça vous a pas échappé, que Philip Ross, en fait, même s'il en riait, n'avait quand même toujours pas digéré de n'avoir jamais reçu le prix Nobel. Jean-Claude.
Moi, je suis très, très, très perplexe à l'égard de ce livre. Rien ne m'a intéressé, je trouvais que c'était un livre décousu.
Même la première partie ?
Non, même la première partie, évidemment, Philip Roth, très bien, donc on se dit chouette, ça va être intéressant. Ça vraiment. Alors, je vais plaider une chose, il arrive qu'il y ait inadéquation du lecteur par rapport à un livre. Peut-être que je suis victime de ça, mais alors c'est traversé de quelques fulgurances, il y a des choses un petit peu intéressantes, mais enfin le ton est étrange, le propos est énigmatique. Je ne lui ai trouvé ni de séduction, ni de grand intérêt, en dépit de l'affiche et de ce que je viens de te dire. Bon, il y a la vieillesse comme ça en filigrane, il y a trois livres, ce que tu viens de dire. La première, l'histoire sentimentale, ne m'a vraiment pas intéressé, en dépit du fait qu'il s'agissait en effet de Philip Roth. Et le livre politique, oui, sans doute, peut-être, et l'interview finale, non. Alors, pour finir mon propos, moi je vous encourage à lire la dernière interview qu'avait donnée Philip Roth à François Bunel dans l'excellente revue America. Vous verrez que Philip Roth ne supportait pas et toute sa vie a essayé de faire en sorte qu'on ne parle jamais de sa vie privée, qu'il voulait protéger, il ne voulait pas que ça soit matière de quoi que ce soit, ni d'une curiosité journalistique.
D'après les entretiens qu'a accordé Lisa Hallyday, il l'a poussé à écrire ce roman.
Peut-être.
Et il savait qu'il en était le personnage principal. Hein.
Bon, mais alors moi je plaide ma propre inadéquation par rapport à ce livre.
Michel.
On se demande un petit peu, enfin moi je me demande un petit peu pourquoi finalement, si c'est vraiment Philip Roth, le protagoniste de ce livre, pourquoi est-ce qu'elle ne l'appelle pas Philip Roth? Enfin, ce Blazer est très bien.
Parce que c'est un roman.
Oui, parce que c'est un roman, mais cette façon de faire savoir par la bande que c'est en réalité de Philip Roth qu'il s'agit, parce qu'elle a eu une liaison avec lui et que parce qu'elle en a fait un livre, a plutôt tendance à m'agacer. Par ailleurs...
C'est jaloux.
Oui, je veux bien avouer qu'il y a une certaine jalousie, c'est vrai. En même temps, on est en face de quelqu'un qui est extrêmement doué. Ce livre est éblouissant.
Je rappelle que c'est un premier roman. Hein.
C'est un premier roman. C'est très impressionnant de maîtrise, de brio, de style, de rythme. qu'est-ce qu'il y a exactement au fond du livre qui pourrait donner au lecteur le sentiment que ce n'est pas seulement un carnet de bord des années passées avec Philippe Roth. Je n'en suis pas sûr. Donc ça me manque un peu à la lecture de ce qu'on sentait en lisant les livres de Philippe Roth. Évidemment, c'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'on avait à la fois la surface et le fond et la forme. Là, on a plutôt que la forme.
Je sens pas l'enthousiasme que je lis dans la presse depuis quelques semaines, non, Eric.
Heureusement que je ne lis pas la presse.
On aime beaucoup ça, enfin surtout la première partie à cause de notre côté vieille concierge. C'est parce qu'on
parle pour toi.
Oui. Mais on ne saurait pas qu'il s'agit de Philippe Roth. Peut-être qu'on serait moins épaté, intéressé par tout ce récit de cette liaison entre cette fille de 20 ans et cet écrivain de 70 et quelques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que ce type qui avait un côté assez puant dans les interviews, dans son attitude, était dans l'intimité un gars très généreux, très drôle.
Très drôle. Hein.
Il lui rembourse son prêt étudiant.
On s'en doutait en lisant Philippe Roth.
Ah oui,
il n'est pas vraiment un auteur tragique non plus.
Il y a des romans très noirs. Hein.
Oui, il y a des romans noirs, mais enfin, il y a quand même une verve comique très importante chez Philippe Roth.
Et la fille est assez forte pour rendre son aventure avec Roth ou
Blake. En fait, ils s'étaient rencontrés dans la réalité, il faut le préciser, à l'agence Wiley.
Oui. Oui, parce qu'elle travaillait chez l'agent littéraire de Ross. Mais là, elle trouve un moyen romanesque, c'est beaucoup plus joli de se rencontrer sur un banc dans Central Park un jour,
évidemment,
où elle mange des glaces. C'est comme dans les films de Mike Nichols des années 70. On voit Candice Bergen rencontrant je ne sais quel vieil acteur.
Elle sait décrire les matchs de baseball.
Ouais, mais ils ne sont pas d'accord, ils ne soutiennent pas les mêmes équipes. Ouais, ils regardent des comédies musicales, ils vont au cinéma voir les films de Marx Brothers. Et lui, il y a des côtés très touchants. Il lui demande de lui rapporter une confiture Little Scarlet, la confiture la plus chère du monde, dit-il, que j'ai achetée d'ailleurs.
Ah oui ? Alors c'est comment ?
Eh bien, c'est une confiture aux fraises des bois et qui ne vaut que 13,85 € et pas 100 $, comme lui le dit.
T'as trouvé ça où ?
En épicerie.
Au
bon marché.
Intéressant. Ah ouais. Cette émission devient intéressante. Et après, on a un service de livraison gratuit sur Internet, c'est bon.
Mais c'est pas la confiture en go, hein, ça a meilleur goût. Non, mais cela dit, il y a quand même un problème dans la construction du livre, parce que la deuxième partie avec cette Irako-américain qui est bloqué à Israël, plus l'interview à la fin qui est censée expliquer tout ça.
Qui explique en grande partie quand même.
Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu trop édition de minuit des années 60. Quoi. Mais la fille est douée, elle a de l'avenir. Il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre avec qui coucher.
Une fois de plus, Arnaud n'est pas d'accord avec toi.
C'est un livre absolument magnifique, une entrée en littérature prodigieuse et à la fois, évidemment, j'y suis allé avec réticence parce que je savais d'emblée de quoi il s'agissait, de quoi il retournait avec Philippe Roth. Mais encore une fois, ce n'est que la première partie du livre. Il y a une deuxième partie qui est tout à fait... Alors, le livre s'appelle « La symétrie », on comprend bien. Il y a un côté dispositif art contemporain dans ce livre et dans la construction en trois parties, puisqu'il y a trois parties. La dernière étant cette interview imaginaire de Philippe Roth à la BBC, étant une espèce de coda, parce que la musique classique est très importante dans la relation, d'abord, entre Philippe Roth et cette jeune femme, et dans l'ensemble du livre. La deuxième partie est magnifique, c'est une critique absolument violente de la politique américaine concernant la guerre du Golfe, et on sait qu'elle l'a fréquenté, Philippe Roth, au moment où il écrivait La Tâche. Et La Tâche expliquait déjà comment Clinton se sortait de ses ennuis avec Monica Lewinsky et avait quasiment déclenché la première guerre du Golfe pour échapper finalement à la mesure de l'impeachment qui lui pendait au nez. Donc il y a un côté là, très fort, c'est comme si elle continuait le travail de Philippe Roth dans la deuxième partie. Et alors la première partie, c'est-à-dire la relation amoureuse, je n'ai jamais vu autant de tact, de délicatesse, d'humour, quelque chose vraiment d'une tendresse dans ce rapport qu'on pourrait penser prostitutionnel, c'est-à-dire dans un
Si,
il lui paye beaucoup de choses, ses études, il rembourse le crédit. Non, et surtout prostitutionnel au sens où tout de suite, et elle le dit, c'est très beau qu'elle le dise.
Elle aurait pu l'appeler Weinstein.
Elle veut devenir écrivain. Et c'est ce qu'il a compris tout de suite. Et d'ailleurs, avant même qu'il lui dise, il lui dit, tu veux écrire. Et
donc il y a quand même ce rapport où il lui donne des conseils.
Je suis d'accord, mais c'est pas ça la prostitution.
C'est un échange. Mais la prostitution, c'est un échange. Je suis désolé. Voilà, c'est le corps contre de l'argent.
On n'est pas dans Guyotat là.
Non, mais Guyotat parle très bien de cette forme d'échange entre le sexe et l'écriture. Et là, on pouvait penser ça. Mais ce qui est très beau, c'est, moi, je pense que normalement, Philippe Ross a dû le lire. Puisque le livre a paru avant sa mort.
Absolument.
Aux États-Unis. On ne sait pas ce qu'il en a pensé, finalement. Il y a un moment
elle
très
dit
beau.
Qu'elle a été adoubée parce que par
il
lui.
A été,
hein.
Il a été opéré du dos et elle découvre son corps avec toutes ses cicatrices parce qu'il a, de nombreuses. Et elle lui dit qui t'a fait ça et il répond Norman Mailer. C'est juste magnifique. Mais c'est juste magnifique.
Cette asymétrie et c'est donc. Le premier roman chez Gallimard de Lisa Hallyday. Allez, on reste à l'étranger avec La Seule Histoire, le nouveau roman du Britishissime. Julian Barnes, mon chouchou, 72 ans, traduit par Jean-Pierre Austin au Mercure de France. Tout commence il y a plus d'un demi-siècle sur un terrain de tennis de la banlieue résidentielle de Londres. Et il suffit à Paul, 19 ans, et Suzanne, 48 ans, de disputer un tournoi double mixte pour tomber follement amoureux. Paul est étudiant en droit, il vit chez ses parents. Suzanne, elle est mariée à un homme qui la frappe et elle a deux filles. Leur liaison provoque évidemment un scandale. Ils sont exclus du club de tennis qui en Angleterre correspond quasiment à une accusation très grave et obligés de s'enfuir jusqu'à Londres. Et là, à partir de ce moment-là, de manière très méthodique, Barnes raconte comment pendant une dizaine d'années, le couple va tenter de survivre à cette passion avant de sombrer, car Suzanne est alcoolique et Paul, malgré sa fidélité au passé, n'arrive pas à la sauver. Évidemment, il y a un côté version anglaise du diable au corps et il y a surtout tout ce qu'on aime chez Barnes, c'est-à-dire la digression, le coq à l'âne, le nonsense et évidemment aussi l'exercice de style. Qui veut en parler en premier, Arnaud?
En fait, ça m'a fait beaucoup penser au livre de Christine Angot. Non, c'est vrai. D'ailleurs, il y a cet exergue magnifique qui est une définition du roman qui date de 1755.
1755, hein. Samuel Johnson.
Samuel Johnson.
Roman, j'avais
généralement une petite histoire d'amour.
Petite histoire généralement d'amour. Généralement. Et voilà, c'est la définition parfaite du livre de Christine Angot aussi. Hein. Et la question qui se pose.
J'hallucine.
La question qui se pose avec Julian Barnes, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est est-ce qu'il nous raconte une histoire vraie? C'est ça la vérité. C'est est-ce qu'il nous raconte?
Je me suis pas posé la question.
Non,
pourquoi
il y a une question, mais parce que toute la dernière partie qui est à mon avis très belle, d'ailleurs à mon avis la plus belle partie,
qui est même bouleversante.
Bouleversant, qui est une considération sur ce qu'est l'amour. Et le narrateur n'arrête pas de compiler toutes les phrases qu'il peut trouver dans la littérature sur l'amour. Et finalement, il n'en garde qu'une seule, une phrase de Champfort qui dit « On ne sait pas si l'amour est vrai et faux, c'est la seule chose qu'on puisse dire qui ne soit pas une absurdité. » Eh bien, c'est exactement ce que raconte Christine Angot avec de tout à fait autres moyens littéraires. Non, je suis désolé, c'est la littérature.
Ta charité chrétienne pour
voilà.
Christine Angot dépasse.
Et j'ai vraiment, mais c'est exactement ça. C'est deux histoires d'amour qui tournent très mal. Et à chaque fois, il y a un tournant dans la vie aussi. Là, il y a un tournant dans la vie lorsqu'il découvre que cette femme qu'il a aimée, qui est plus âgée que lui, est alcoolique. Après,
elle
si
le
vous
devient.
Voulez,
elle ne l'est pas au début. Hein.
C'est quand même très très anglais à tous les niveaux. Ça raconte bien l'époque après.
Ça veut dire quoi cet anglais à tous les niveaux?
Après-guerre, dans le côté jean rami, un peu camomille et mots croisés et partie de tennis, si vous voulez. Là, moi, j'ai eu une espèce de un peu d'overdose d'anglicisme pour moi. Mais voilà, c'est tout, c'est ma petite critique.
Mais parce que t'es anglophobe, c'est pour ça, Jean-Claude.
Il y avait.
T'as retrouvé Christine Angot dans ce.
Alors justement, il y avait quelques années à la télévision un jeu qui s'appelait le francophonissime.
Le quoi?
Le francophonissime. Donc le principe était qu'il fallait placer des mots, et on tirait au sort des mots, et puis il fallait les mettre dans les phrases. Donc Arnaud est en train de jouer au francophonissime avec nous, en essayant de mettre Angot dans toutes ses interventions. Voilà. Donc c'est une version, sur France Inter, c'est un revival du francophonissime par notre ami Arnaud Vivian.
On n'est pas me chercher non plus. Hein.
Non, c'est un très très beau livre. Enfin, ça y est, on revient enfin à de la littérature, à de la vraie, à quelque chose de profond, de grave. En effet, sur cette histoire d'amour, alors là, pour le coup, oui. On est vraiment, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment un roman sur la mémoire et la recomposition. C'est-à-dire que sans arrêt, il cherche la vérité de cette relation. C'est-à-dire que plus que les détails qu'il met dans le livre, il cherche à recomposer. Et il se pose d'emblée, dès le début du livre, une question qui est, quand on raconte son histoire d'amour, est-ce que ça rapproche de la vérité, de ce qu'on a vécu, ou ça?
Ça, c'est très Angot, hein.
Ça,
Non, c'est vrai.
Non, je suis désolé,
c'est plus en go au golf.
Alors, est-ce que ça rapproche? C'est plus un livre sur la fidélité à l'amour passé. Parce que ce garçon, même quand cette pauvre Suzanne n'est plus que l'ombre d'elle-même, il continue, alors qu'il a sa propre vie, hein, il continue à l'aimer, à vouloir l'aimer.
Alors, précisément, elle a fait le choix du bannissement social en partant avec lui, puisque le club de tennis est en effet une figure du bannissement social. Et quand elle bascule dans l'alcoolisme, ce qu'il y a d'absolument bouleversant, c'est que lui se pose la question de savoir pourquoi, ayant choisi de vivre ensemble cet amour, et qu'elle, elle l'a provoqué, enfin qu'elle a été d'accord pour quitter son mari, ses enfants, partir ailleurs, vivre avec lui, comment se fait-il qu'elle ait basculé dans l'alcoolisme alors qu'elle ne l'était pas avec son mari repoussant qu'il a battu.
L'alcoolisme, mais c'est aussi la psychiatrie. Oui, bien sûr. Ça va très loin dans la spirale.
Ce qui est très beau aussi, c'est le déni de cette femme pour son alcoolisme, mais aussi son déni à lui pendant très longtemps où il ne veut pas le reconnaître. Les signes sont là, ses amis le lui signalent, et il ne veut pas l'admettre. Et quand il finit par l'admettre, il est obligé de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle devient alcoolique avec moi. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a ce qui est de très beau chez Julianne Barnes, c'est qu'il y a une sorte de posture à l'antique, c'est-à-dire qu'il tente jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin qui est tragique, il tente de garder de la dignité dans les souvenirs.
Et avec de l'humour.
Oui, mais aussi comme un devoir envers le passé de cet amour. Et moi, je trouve ça très, très beau.
Il se demande notamment si trafiquer le lait en le coupant d'eau est un adultère. Et on comprend enfin pourquoi un jour Churchill portait du fard et du rouge à lèvres.
Juste une chose, Eric, c'est sur le titre. La seule histoire, il explique très bien à un moment, c'est quelles que soient les vicissitudes d'une histoire d'amour, qu'elle soit réussie ou qu'elle vire au fiasco, une histoire d'amour reste une histoire d'amour. Et surtout quand c'est la première histoire d'amour, et surtout quand elle demeure la seule histoire.
Alors, Eric.
Ah, c'est superbe, là. Vraiment, là. C'est peut-être le meilleur roman de Julianne Barnes. C'est encore mieux que Une fille, virgule, qui danse, là.
Et Love, etc.
Ah, et là, vraiment,
c'est... Et son grand livre, qui était quand même Le perroquet de
Flaubert. Oui, mais qui n'était pas un roman, qui était très habile, très intelligent. Mais là, c'est vraiment le romanesque dans lequel on a envie de se glisser comme un truc soyeux, odorant. Là. C'est Harold Emaud, proustien, c'est Un été 42. Qui durerait une dizaine d'années et dont le narrateur se souviendrait évidemment jusqu'à la fin de ses jours. Il arrive en trois parties, là, beaucoup mieux que Lisa Hallyday, parce qu'il a plus de métier et sans doute peut-être quelque chose de plus profond, à montrer comment le temps passe, qu'est-ce que c'est que l'adolescence vraiment, qu'est-ce que c'est que le premier amour avec une femme de 30 ans de plus, qui est notre rêve à tous quand on est jeune.
Ah bon?
Ah bah oui, moi, je... Là, avec cette femme qui prend tous les risques pour lui.
Et... Maintenant, je sais quelle confiture tu bouffes et ce qu'étaient tes rêves d'adolescent.
Elle mise tout sur ça. Lui, il n'a rien à perdre. Il conduit sa Maurice Minor, il la ramène chez elle après les matchs de tennis. Et on voit comment une vie se bâtit et se désagrège en même temps. Elle n'est pas alcoolique au début, elle le devient. Donc, il se demande si c'est pas sa faute à lui, si cette femme...
Elle regrette d'avoir abandonné quand même ses enfants aussi.
Non, c'est écrit, filles, mais d'une façon splendide. Il y a toute une série. Il explique ce que sont les silences anglais.
C'est très bien traduit par Jean-Pierre Haust. Ouais.
Les silences anglais où les deux interlocuteurs comprennent ce que veut dire l'autre sans parler. Et c'est un peu ça, ce livre. C'est un peu ça, le roman à l'anglaise. C'est comme dans les films de Lozay, les meilleurs films de Lozay. On voit là que le passé est vraiment un pays étranger. La deuxième partie, c'est un vous. La troisième, c'est il. Et à ce moment-là, le
type qui savait
très bien expliquer ce que c'était qu'un adolescent amoureux est devenu un vieux monsieur. Et il explique qu'il pense qu'il ne fera plus l'amour avant de mourir. Mais c'est très, très beau, ce livre. C'est vraiment un livre déchirant. Et on ne voit pas Doc Gynéco. C'est le seul reproche que je ferais à Julianne Barnes.
Michel.
Ah ben, quel beau livre, quel grand livre. C'est un livre de grâce, d'équilibre, de beauté.
C'est bien de vous voir heureux.
et je voudrais dire, on disait tout à l'heure, oui, c'est très anglais. Effectivement, c'est très anglais, mais pour une raison qui en effet fait partie de la littérature anglaise et fait de ce livre un chef-d'œuvre, c'est que les Anglais sont capables de donner une représentation de la vie qui passe dans une sorte de point d'équilibre entre le grave et le léger, entre la beauté et puis l'ombre qui vient doucement recouvrir les choses. Tout ça est restitué d'une manière presque musicale et c'est vraiment, vraiment un enchantement de lire ce livre qui, pour moi, de loin, enfin, j'ai pas lu tous les 600 livres de la rentrée, mais c'est vraiment un des grands livres de la rentrée, clairement.
Profitez-en pour relire la plupart des livres de Julian Barnes, qui en plus est très francophile, donc on l'attend après le Brexit.
Oui, on lui offre une maison en France. C'est formidable.
La seule histoire, c'est donc Julian Barnes, et c'est au Mercure de France. Le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu, ben voilà, c'est le nouveau roman chez Gallimard de Boualem Sansal, l'auteur algérien du Serment des Barbares et de 2084, La fin du monde, une dystopie qui lui avait valu le Grand Prix de l'Académie française. Et là, l'histoire de ce nouveau roman se passe en Allemagne, à Erlingen, dont la population se sent assiégée par de mystérieux, de terrifiants ennemis, les serviteurs qui obéissent à la seule loi divine, une population qui attend, d'où le titre, le train qui doit l'évacuer, mais qui ne vient pas. C'est raconté par Ute von Ebert, la dernière héritière d'un empire industriel allemand, dans les lettres qu'elle envoie à sa fille Anna, qui, elle, vit à Londres. L'histoire de cette héritière épistolière étant racontée avant qu'elle ne meure par une victime des attentats de 2015 à Paris, qui s'appelle, elle, Elisabeth Potier de Saint-Denis. J'en conviens, c'est un peu complexe, mais on voit au moins que Sansal est fidèle à son combat contre l'extrémisme religieux et contre l'aveuglement des démocraties occidentales. Il est dans le droit fil de ce qu'il écrit depuis pas mal d'années. Tu admires la manière dont j'ai résumé, Arnaud, je vois, ce roman?
Oui. Le titre, ça va, le train d'Erlingen, ça va, mais déjà le sous-titre...
La métamorphose de Dieu.
Alors, Dieu, faut dire, hein, dans un roman, Dieu, personnage pas facile, assez difficile à décrire, barbe ou
plus,
pas barbe...
Plus difficile que Doc Gynéco.
Ouais, plus difficile que Doc Gynéco, barbe ou pas barbe. Pourtant, et alors, si en plus Dieu se métamorphose, c'est là où j'ai commencé à me demander où est-ce que j'avais rangé l'aspirine. Et alors, il y a donc deux livres...
Au moins.
Oui, au moins deux livres, mais la deuxième partie commence.
Ce qui n'est pas le cas chez Angot.
Une espèce de démarquage.
Il y en a un seul.
Non, c'est pas le cas chez Angot. Il n'y a qu'un seul livre, au moins on est tranquille.
Même pas.
Voilà. Et le deuxième livre commence par un démarquage de Dante. Toi qui entres dans ce nouveau livre, abandonne tout espoir de faire la différence entre réalité et fantasmagorie. Et là, je me suis rappelé que l'aspirine devait être dans la table de la cuisine. Parce que, soudainement, alors, qu'est-ce que j'en ai compris à l'arrivée? C'est que c'est pas un livre d'islamo-gauchias, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ah non.
Ça devrait plutôt plaire, sinon dans la forme, parce que la forme est quand même spéciale, peut-être dans le fond, aux adeptes du printemps républicain. Il y a un projet politique, un texte politique assez fort, qui n'est pas du tout ma branche, mais qui, encore une fois, devrait
plaire.
Je rappelle
que Boualem Sansal vit en Algérie,
oui.
C'est là qu'il écrit et c'est là qu'il vit. Hein.
Donc voilà, il y a un propos assez nébuleux sur l'idée des migrants. Alors, les migrants au 19e, c'était bien, ils allaient aux États-Unis, ils faisaient fortune. Bon, ils tuaient les Amérindiens au passage. Boualem Sansal oublie de dire qu'ils ont déporté quand même des millions d'Africains, ça il n'en parle pas. Et donc les migrants d'aujourd'hui, c'est mal parce que ce sont des islamistes méchants. Et je caricature à peine le propos. Et donc voilà, c'est un livre, là pour le coup, qui me semble indéfendable littérairement et philosophiquement.
Alors, qui veut le défendre, Eric, peut-être?
Mais je n'avais jamais lu cet auteur.
Jamais, Boualem Sansal?
Jamais, non. Bah oui, je suis désolé.
Il a lu Scott
Fitzgerald. Au début, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Je me suis dit, là, on tient peut-être un roman assez ample, ambitieux. Et puis, au bout de 150 pages, le gars, c'est un chantier abandonné. On était dans cet empire allemand, dans cette ville imaginaire, avec un côté Julien Gracq, on savait pas ce qui allait arriver, ces envahisseurs. Et puis, paf, on se retrouve dans 9-3, les attentats du Bataclan. Alors là, j'ai plus rien compris. Le type dit, oh, bah, j'arrive pas à écrire ce roman, donc on va inventer une autre histoire qui a censément quelque chose à voir. Mais on avait compris que c'était un truc sur les islamistes et les attentats. Il aurait dû continuer.
Entre parenthèses, si on pouvait arrêter avec tous ces romans de la rentrée où on passe forcément par le Bataclan. Oui. Fin de parenthèse.
Donc, l'éditeur là aurait dû lui dire,
Gallimard,
reprends ça et repart à la page 151 en continuant ton premier roman. Alors, du coup, on se raccroche ensuite parce que il nous parle d'un type complètement oublié, Virgile Georgiou, l'écrivain qui avait été très célèbre.
La 25e heure.
Oui, mais là, il parle d'un truc qui s'appelle les Immortels d'Agapias. Ouais.
Hein.
Et mais il a des références assez variées puisqu'il y a aussi le jouet de Francis Weber. qui arrive là-dedans. Et puis le truc qui m'a fait rigoler, c'est que dans la première partie, il y a une librairie où se retrouvent les résistants, et elle s'appelle Le glaive et la plume. Et j'y ai vu un hommage.
Jean-Claude.
À défaut d'un hommage, au moins une inspiration. Non, le problème, c'est dès le prologue. C'est-à-dire que dans le prologue, il y a deux pages. Moi, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais attends, si au prologue, là, je comprends pas, ça va être difficile après. Mais le prologue, je ne comprenais rien. Alors, d'habitude, il pose des personnages, des trucs. En fait, c'est un roman en pièces détachées. Il finit, Eric a raison, il finit un moment par le dire. Et en fait, c'est au lecteur de faire son mécano. Et après tout, pourquoi pas?
Bah oui, enfin, c'est le roman Ikea.
Absolument.
Alors, c'est une bonne comparaison.
Il manque deux ou trois vis, hein, quand même.
Oui, oui, mais
il manque surtout le mode d'emploi.
T'as un bureau de réclamation à Ikea.
Le problème, si vous voulez, c'est que Sansal est tout ce qu'il faut pour être estimable. Enfin, je veux dire qu'il est.
Non seulement pour être estimable,
c'est
mais
ça, le problème.
Là, blague à part, c'est quand même quelqu'un qui prend des risques,
c'est
qui est dangereusement,
et
qui est sous une menace qui n'est pas.
C'est pour ça que c'est toujours un peu gênant quand même.
À laquelle nous ne sommes pas nous-mêmes exposés. Donc là-dessus, moi, c'est la limite de la franche rigolade que nous avons là. Parce que, voilà, il y a un moment, en effet, il y a quelque chose de respectable. Donc ce qu'il dit, en effet, et c'est respectable de dire, attention, il y a un danger, il s'appelle l'islamisme. Moi, je le connais bien, dit Sansal, et il y vit. Voilà les formes que ça peut prendre. Donc en effet, c'est assez nébuleux. Alors il parle d'envahisseur, mais il dit que c'est un envahisseur caméléon, qui est partout et en même temps qu'il est de nulle part.
Les serviteurs.
Oui, mais qui est partout. Et de nulle part, que bon, c'est aussi un roman sur cette sorte de « on veut pas voir ce qui arrive pour des tas de raisons ». Bon, moi je trouve ça intéressant comme lanceur d'alerte. En revanche, sur le plan littéraire, en effet, tu as raison, c'est un chantier un petit peu délicat.
Quelques mots de Michel.
Oui, alors c'est un mécano. Effectivement, la comparaison avec le mécano est juste. Ça me fait penser à un copain que j'avais avec qui je faisais du mécano, justement, dans ma chambre.
Mais il y a longtemps,
Oui, il y a très longtemps.
Non, l'an dernier.
Il y a très longtemps, la semaine dernière. Et ce copain, je me souviens, il avait toujours 25 idées à la minute. Il disait, viens, on va faire ça.
Et pas toi?
Non, moi, j'étais beaucoup plus calme. Et le livre, évidemment, se ressent un peu de cette espèce de brouillon d'impatience. En même temps, on ne peut qu'être de tout cœur avec le combat contre l'obscurantisme. Qui est pour l'obscurantisme? Personne. Mais je dois dire en toute honnêteté que c'est pas mon rayon. Enfin, je ne ressens pas grand-chose. Je vois qu'il y a un vrai travail, il y a une inventivité, une créativité, une soif de dire les choses autrement qu'on ne les dit. Mais je ne suis pas follement
bon,
sensible.
Bon, on a compris. Voilà. Le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu chez Gallimard. Et c'est signé Boilem Sansal. Et on termine avec Tu t'appelais Maria Schneider chez Grasset, le récit que consacre Vanessa Schneider à sa cousine, à feu sa cousine Maria Schneider, ou plutôt la lettre posthume qu'elle lui adresse 7 ans après sa disparition. Maria Schneider, faut-il le rappeler, la comédienne dont la vie en 71 est devenue un cauchemar. Elle avait 19 ans quand elle a tourné sous la direction de Bertolucci Le dernier tango à Paris avec Marlon Brando. Brando à qui, sans rien en dire à Maria Schneider, Bertolucci a suggéré une scène de sodomie qui n'était pas dans le scénario. Et là, c'était le début pour Maria Schneider, à la fois de la trahison, puis du sentiment d'avoir été au moins symboliquement violée. Scène évidemment traumatisante. Et puis le début d'une descente aux enfers dans l'alcool, les drogues, tentatives de suicide, séjour psychiatrique à Sainte-Anne. Jusqu'à sa mort, c'était en 2011, d'un cancer du poumon. Elle avait 58 ans. Et donc, dans son livre, Vanessa Schneider ne décolère pas contre Bertolucci. Elle raconte comment sa famille, très bobo mao-écolo, je rappelle que le père, c'est l'auteur du livre aussi sur Marilyn Monroe, que vous avez dû lire il y a quelques années, comment sa famille a tenu lieu de refuge pour Maria Schneider, dont on apprend d'ailleurs au passage qu'elle fit l'amour dans un avion avec Bob Dylan, et qu'elle fut la muse de Patti Smith. Eric, tu l'avais conseillé d'ailleurs à la fin d'un masque, je me souviens, cinéma.
Oui, mais c'est un assez beau livre, avec un problème, parce que dans ce
livre...
Alors,
c'est quoi le problème?
Dans ce livre sur Vanessa Schneider, il est un peu trop question de Maria. J'aurais aimé qu'elle se concentre davantage uniquement sur sa cousine, mais c'est un livre assez émouvant à la deuxième personne, tu étais, tu faisais ceci, cela. Et on aime beaucoup Maria Schneider, qui est quand même une actrice mythique à cause des deux chefs-d'œuvre qu'elle a tournés au début de sa carrière, Le dernier tango et Profession reporter. C'est déjà pas mal dans une carrière hein, d'avoir ça. Bon, toutes les coulisses du tournage sont peut-être dramatiques, j'en sais rien, mais Est-ce que c'est pas le prix à payer pour les chefs-d'œuvre? Oh, ah, ben, je sais pas. Ça,
oh, non,
Mais Bertolucci a payé dans, puisque il ne tourne plus que des navets depuis 40 ans. Donc, c'est
je
ça,
rappelle
déjà,
quand même qu'il
châtiment.
A fallu qu'il attende la mort de Maria Schneider pour exprimer ses regrets. Je parle de Bertolucci, hein, oui. Et voir ses remords.
Mais non, mais attends, la fille avait l'air d'être assez complètement folle, droguée, mais
ça veut dire quoi, ça?
Elle disait, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. C'est formidable, ça. Et le livre est assez touchant parce qu'il y a beaucoup d'amour, de naïveté, de regrets. Le couple des parents qui sont 68 ans, un jour, Vanessa Schneider, adolescente, rentre à la maison et elle voit son père pleurer. Et ça ne lui est jamais arrivé de voir les larmes de son
Michel
père.
Michel Schneider.
Et vous savez pourquoi? Mao était mort. Alors moi, ça me fait éclater de rire, ce genre de truc.
Quelques mots d'Arnaud.
C'est un selfie littéraire, ce qu'on appelait un selfie littéraire.
Un selfie littéraire.
Oui, un selfie ça littéraire. C'était un genre qui était très en vogue il y a 2 ou 3 ans. On a eu Charles Bronson et moi, Una Chaplin et moi. Voilà, c'était.
Sauf que là,
exactement c'est... comme dans un selfie où maintenant plus personne ne demande à un autographe, à un écrivain. On se prend en photo avec lui et c'est ce qu'on appelle un selfie. Donc là, c'est un selfie littéraire. Donc c'est Maria Schneider et moi. Avec simplement, c'est justifié parce que elle est la cousine de Maria. Voilà, cousine Germaine. Donc c'est plus un selfie familial là pour le coup, une photo de famille. Dans la famille, moi mon préféré c'est Michel Schneider, justement le maoïste, avec des histoires très drôles à son sujet. Et peut-être la chose qui me touche le plus dans ce livre, c'est que donc Michel Schneider, tu l'as rappelé, avait fait un très beau livre sur Marilyn Monroe. Sa fille fait un
l'analyse
très,
de
fait un livre sur Maria Schneider. Oui, c'était il se prenait pour le psychanalyste de Marilyn Monroe. Et d'une certaine manière, on peut dire que Marilyn et Maria Schneider sont des victimes pré-Weinsteiniennes du cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le rapport entre le père et la fille, c'est-à-dire Michel et Vanessa et Maria et Marilyn. C'est là où il y a quelque chose qui se passe. Après, je suis un petit peu comme Eric, c'est-à-dire que moi j'adore Maria Schneider, qui a été un corps de liberté dans le cinéma, un corps comme on n'en avait pas vu encore au début des années 70. Elle est magnifique dans Profession Reporter. Du coup, j'ai revu cet été d'ailleurs La Dérobade, où elle raconte qu'elle était tellement camée, Maria Schneider, que toutes les scènes où elle devait parler, elle ne pouvait pas parler, donc elles ont été coupées. Quand j'ai revu La Dérobade, c'est tout à fait frappant. Mais quand même, ça manque d'un travail d'investigation, à mon avis, sur Maria Schneider et ce qu'elle a été, l'actrice qu'elle a été.
Michel ?
Écoutez, moi, j'ai été très touché par ce livre. Ce qui m'a touché, c'est la justesse de ton. Il y a une émotion, il y a une tendresse qui sonne juste.
Il y a aussi une colère. Hein.
Oui, il y a aussi une colère, mais
Vanessa
le fond...
Vanessa ne décolère
fond
pas.
Du,
hein.
Le fond du, puis c'est, je sais pas, c'est un livre écrit droit qui m'a touché. La présence de Delon aussi, de Bardot.
C'est Delon qui, à la mort de Maria Schneider, a prononcé... Enfin, a lu le texte que Brigitte Bardot avait écrit.
Et ça aussi...
C'est Bardot qui a payé les obsèques.
Alors, on disait, parlait tout à l'heure de pré-Weinstein, ou je ne sais plus ce que tu disais, ou le premier corps qu'on a vu... Mais Bardot était en fait la première de la liste d'une certaine façon. Et ce livre a quelque chose de très touchant, vraiment.
Jean-Claude.
Mais c'est un livre très très beau. Voilà, c'est un livre très touchant, très beau, très intime, très profond, très grave, qui explique comment en très peu de minutes une vie peut être brisée, détruite, et après il va falloir essayer de vivre avec ça. Donc une scène dans un film suffit à détruire quelqu'un. Là-dessus, Vanessa Schneider mêle l'histoire familiale. Je trouve que c'est un très beau livre bouleversant, de combat, de rage. C'est un film sur la cause des femmes. C'est un livre sur comment le cinéma peut détruire quelqu'un. Et au prix de ce que toi tu dis, mais là je me désolidarise de toi, non, on peut pas faire des films à ce prix-là. Et d'ailleurs la preuve en est, c'est l'attitude assez ignoble de Bertolucci pendant toutes ces années.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, exactement. Jusqu'au bout.
Elle écrit, Vanessa Schneider, tu n'aurais pas voulu, en s'adressant à Maria, de ses excuses, encore moins de ses baisers.
Bien sûr. Et c'est écrit en court chapitre, c'est tendre, c'est percutant, c'est rageur, c'est délicat. Enfin voilà, je trouve que c'est un très beau livre, c'est une vraie réussite, je trouve ça très beau.
Tu t'appelais Maria Schneider chez Grasset. C'est donc le livre de Vanessa Schneider. Allez, c'est le temps des conseils pour terminer cette émission et on va commencer avec Arnaud.
J'en ai parlé donc en début d'émission, c'est ce premier roman d'Inès Bayard qui s'appelle Le Malheur du Bas chez Albin Michel. C'est vraiment un livre très fort, j'ai dit que ça ressemblait à Chanson douce de Leïla Slimani comme choc et comme histoire, parce que ça commence de la même manière que Chanson douce par ce qu'on appelle une prolepse, c'est-à-dire qu'on sait la fin de l'histoire, elle est racontée au début, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Marie, elle est en train de préparer un repas empoisonné pour son petit garçon et pour son mari. Laurent, comment en est-elle arrivée là à vouloir se tuer et tuer son mari et son enfant? Et donc c'était un couple heureux, ils avaient la trentaine, elle travaille dans une agence bancaire, lui est avocat, il est en train de devenir célèbre, et puis un soir son directeur d'agence ramène Marie à la maison et la viole dans sa voiture, et elle se tait. Et à partir de là, il y a un engrenage fou qui se met en place. C'est un livre pas simplement sur le viol, sur le silence, sur le corps des femmes, c'est aussi un livre très politique sur, d'une certaine manière, la condition de l'employé, et c'est un livre d'un réalisme fort, surprenant, magnifique.
Et c'est donc Les Malheurs du Bas, c'est Inès Bayard, et c'est chez Albin Michel. Éric.
Ça n'est pas un premier roman, mais comme Stéphane Hoffmann écrit toujours des premiers romans, je conseillerais Les Belles Ambitieuses, qui a vraiment...
Encore Albin Michel?
Ah bah peut-être, oui, c'est vrai. On s'était pas concerté. Et c'est l'histoire d'un jeune Versaillais dans les années 70, qui est un type qui est l'incarnation de la paresse, de l'oisiveté et de la liberté d'esprit, qui voit tous ses amis devenir ministres, patrons, publicitaires, et qui lui préfère ne rien faire. Et c'est vraiment une phrase de premier roman. Au début du livre, il dit... Je suis Versaillais et énarque, ça ne m'empêche pas d'être un con. Et tout le livre est bourré de formules comme ça, une liberté.
Comme tous les livres de Stéphane Hoffmann.
On se croit dans du Félicien Marceau.
En tout cas pas dans un livre d'Angot, du tout là.
Ah, c'est le contraire, oui.
Stéphane Hoffmann, c'est chez Albin Michel.
C'est Les Belles Ambitieuses.
Mon conseil, c'est un livre qui vient de sortir, assez bref, qui s'appelle Gaspard de la nuit, chez Stock, de la philosophe Elisabeth de Fontenay, spécialiste de Diderot, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été l'assistante de Jean Kélévitch. Et là, elle fait le portrait absolument bouleversant et admirablement écrit de son frère cadet, qui est âgé de 80 ans aujourd'hui, et qui est atteint d'un profond, très profond handicap mental, un vieil homme absent à lui-même, mais présent dans l'œuvre de sa sœur, sans cet innocent qui réagit, et là je cite Elisabeth de Fontenay, comme un agneau que l'on mènerait à l'abattoir, elle n'aurait pas écrit notamment ce livre majeur qu'est Le silence des bêtes. Très beau et très bouleversant livre, Gaspard de la nuit, chez Stock d'Elisabeth de Fontenay. Jean-Claude.
Un premier roman américain qui paraît chez Gallmeister, qui s'appelle 11 jours de Léa Carpenter. C'est l'histoire de l'attente d'une mère en Pennsylvanie, qui occupe des hautes fonctions à Washington par ailleurs, à qui on vient d'apprendre que son fils unique, qui combat dans les forces spéciales américaines, est porté disparu. Les 11 jours, c'est les 11 jours d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Dans quel état je vais le retrouver? Et ces 11 jours sont nourris de courts chapitres où elle se souvient de son enfance, de comment leur vie ensemble. Ça a l'air comme ça banal, c'est très beau. C'est le premier livre d'une femme qui a 45 ans. C'est une totale réussite du style, dans la construction, la force du propos, la beauté de l'écriture.
Le titre, Jean-Claude.
11 jours, Léa Carpenter.
Michel.
Alors, aux éditions Finitude, un premier roman de Laurent Seyer qui s'appelle « Les poteaux étaient carrés » et qui raconte... C'est un jeune provincial qui a 13 ans, qui vit à Saint-Étienne, qui est passionné par le club de foot de Saint-Étienne, et qui raconte, qui assiste au match mémorable Bayern de Munich contre Saint-Étienne, qui avait été gagné par le Bayern par 1-0. Et pour lui, c'est un moment, un soir absolument inoubliable qui a marqué sa vie à jamais. Il le raconte dans ce livre, très touchant, très juste aussi, très, très simple et que j'aime beaucoup.
Tous ces conseils, vous les trouvez, bien sûr, sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci Michel Crépu, Jean-Claude Raspien, Jas, Arnaud Vivian, Éric Neuhoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir à l'Opéra National de Lorraine à Nancy, chargé de production Franck Malabry, et à la technique, je les remercie tous, Andreas Jaffray, Loïc Duros, Gilles Manet, Tanguy Le Corneau. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 20 septembre. Je vous attends très nombreux au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.